18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est extrêmement violent, c'est vraiment très violent. Il faudra que je sois écœuré humainement, écœuré, voilà. C'est facile de dire de loin, c'est pas rentable, on s'en va.
La colère et la détresse des salariés de Bridgestone à Béthune. Le numéro 1 mondial du pneumatique annonce la fermeture de son usine. Plus de 800 emplois sont menacés.
Un assassinat prémédité pour le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Le gouvernement, lui par la voix de Gabriel Attal, parle, nous l'entendrons, de trahison.
Au procès de Charlie Hebdo, témoignage bouleversant aujourd'hui de l'imprimeur de Dammartin en Goële. Il avait été pris en otage par les frères Kouachi.
Ce scandale que nous vous révélions ce matin sur Europe 1, certains labos n'hésitent pas à faire payer les clients qui veulent passer en priorité pour les tests Covid. Explication dans un instant.
Nous vous parlons depuis plusieurs jours des incendies en Californie. Eh bien, les fumées sont arrivées jusqu'à nous, en Europe. Promis, ça n'est pas une blague.
Et puis la victoire du Colombien Miguel Angel Lopez au col de la Lauze pour cette 17e étape du Tour de France.
Enfin, la Bourse de Paris a terminé ce soir en très légère hausse de 0,13% à 5074 points.
La tendance météo avec Anissa, la chaleur arrive, mais les orages aussi.
Exactement, Julien. Pour ce soir et cette nuit, des orages éclatent. Je vous dirai où à la fin du journal. Demain, il va faire toujours très beau et encore très chaud, surtout dans le sud-ouest.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la stupeur depuis ce matin à Béthune. Les salariés ont appris la fermeture de leur usine Bridgestone.
Avec à la clé 863 emplois menacés, la fermeture du site est prévue en 2021. Le numéro 1 du pneu parle d'une surcapacité de production en Europe et de la concurrence des marchés asiatiques qui cassent les prix.
Lionel Gougeot, vous êtes sur place pour Europe 1. Cette annonce, c'est un coup de massue pour les salariés.
Oui, et figurez-vous que c'est par un simple message vidéo diffusé en interne ce matin que les salariés ont appris la fermeture prochaine de leur usine. David, 25 ans d'ancienneté, ne s'attendait pas à une telle issue.
Bah, moi, je suis abasourdi et je suis complètement anéanti là, parce que je savais que l'usine elle tournait sur trois pattes depuis un certain temps, mais de là à ce que ça ferme, on s'y attendait vraiment pas du tout.
Ici, ces deux dernières années, la production de pneumatiques avait été divisée par deux. Les syndicats dénonçaient le manque d'investissement et des produits inadaptés au marché. Stéphane Le Six, délégué CFDT.
Niveau qualité, c'était devenu une catastrophe. Niveau production, c'est devenu une catastrophe. Et on ne voyait plus le directeur, on ne voyait plus le directeur de production. On était livré à nous-mêmes. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Ouais. Pour nous, c'était fait d'avance. Vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il y a la rage, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé là.
Un sentiment partagé par Olivier Gacquière, le maire de Béthune.
Profondément, je pense qu'ils avaient pris la décision il y a un petit moment, oui. Et qu'ils nous ont amusés pendant 3 ans. C'est extrêmement violent, c'est vraiment très violent. Il faudra que je sois écœuré humainement. Écœuré, voilà. C'est facile de dire de loin, c'est pas rentable, on s'en va. Faut qu'on discute, faut qu'on regarde, puissance publique, entrepreneur, pour trouver un plan B, un plan C.
Mais l'idée d'une réindustrialisation du site laisse perplexe. Commentaire d'un salarié, cela fait 25 ans que je fais des pneus et je ne sais rien faire d'autre.
Merci Lionel Gougelot. Alors les salariés ont eu droit à la visite de Xavier Bertrand cet après-midi, le président des Hauts-de-France, qui a parlé d'assassinat prémédité. Au gouvernement, l'annonce passe mal également. Écoutez le porte-parole Gabriel Attal.
La fermeture de l'usine de Béthune, c'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond, et une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone, en aidant l'usine depuis des années. Bridgestone doit aujourd'hui assumer ses responsabilités plutôt que de chercher des prétextes. C'est l'entreprise qui a sous-investi dans le site de Béthune au profit d'autres sites. C'est cette entreprise qui a été incapable d'instaurer les conditions d'un dialogue social sain. C'est cette entreprise, enfin, qui n'a fait aucune proposition quand l'État et la région Hauts-de-France ont présenté des mesures de soutien dans le cadre du plan de relance.
Gabriel Attal, le porte-parole donc du gouvernement. Vous nous avez rejoint, Jean-Rémy Baudeau. Ce n'est pas le premier plan social annoncé depuis le début de la crise, mais cette fois, le gouvernement monte au créneau et en fait un symbole.
Oui, parce qu'au sein du gouvernement, à l'Élysée autant qu'à Bercy, on a le sentiment d'avoir tout fait pour éviter le pire et que finalement, eh bien, le pire se réalise quand même. Un conseiller au ministère de l'économie me parle de la colère froide qu'il ressent. On a régulièrement tendu la main à la direction de Bridgestone, me dit-il. Ils ne l'ont jamais saisi. Il faut comprendre qu'une telle entreprise, elle a des échanges réguliers avec les services de l'État. On avait identifié le manque d'investissement, se désole un acteur du dossier. Et cela faisait un moment donc que Bercy proposait des aides pour moderniser le site. Même encore récemment, dans le cadre du plan de relance, en face, aucune réponse si l'on en croit Bercy. D'où ce sentiment de trahison dénoncé par le porte-parole du gouvernement et cet alignement de l'ensemble des acteurs politiques, y compris Xavier Bertrand, qui se range du côté du gouvernement, promet des aides si besoin. La crise de Bridgestone, elle n'est pas directement liée à celle du Covid, mais l'État sait que ce type d'annonce risque de se multiplier dans les prochains mois. Il faut donc faire passer le message que l'État est pleinement mobilisé.
Merci pour ce décryptage, Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe. Inquiétude également chez les salariés du laboratoire Boiron. 200 employés ont manifesté ce matin devant le siège social à Messimy, c'est dans le Rhône.
Une restructuration du groupe pourrait entraîner effectivement la suppression de 646 emplois. Les salariés dénoncent le prétexte du déremboursement de l'homéopathie.
Concernant les perspectives économiques mondiales, l'OCDE confirme aujourd'hui que la récession en 2020 sera moins sévère que prévu grâce à la réaction rapide des pays. On l'a vu en France avec le plan de relance. Elle s'inquiète en revanche pour la reprise qui pourrait être plus difficile qu'espéré en 2021.
Les suites du procès de la tuerie de Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, à l'audience, c'est toute l'angoisse et la course-poursuite avec les frères Kouachi qui rejaillit dans l'enceinte du tribunal de Paris depuis le début du procès.
Ouais, c'est particulièrement vrai avec des témoignages comme celui de Michel Catalano, pris en otage dans son imprimerie de Dammartin en Goëlle, en Seine-et-Marne. Il est revenu aujourd'hui sur les longues heures d'angoisse passées aux côtés des frères Kouachi avant d'être libéré. Chloé Triomphe, vous avez assisté à l'audience. Ce témoignage a fait ressurgir chez lui toute cette souffrance.
Oui, Michel Catalano a prévenu à chaque fois qu'il témoigne devant une classe ou une association de ces heures où il a cru frôler la mort à chaque instant. Il finit épuisé, vidé. Mais aujourd'hui, à la barre, c'est dans un flot de larmes qu'il a terminé sa déposition après que le président l'ait longuement questionné sur ce qu'il venait de déclarer. Ses souvenirs sont d'une précision intacte. La chronologie des échanges avec les frères Kouachi sous la menace omniprésente des Kalachnikov, son obsession à capter leur regard pour que surtout il n'ait pas l'idée d'aller fouiller l'imprimerie où il avait enjoint son employé Lilian de se cacher. Le café qu'il leur a fait couler, le pansement qu'il a refait trois fois à l'un des frères après un échange de tirs avec les premiers gendarmes arrivés sur place. Et surtout, raconte-t-il, ce calme apparent et ce sang-froid pour sauver sa vie et celle de son employé et pour lesquels il est allé puiser tout au fond de lui-même. Aujourd'hui, Michel Catalano semble encore profondément traumatisé. Mais le plus important, dit-il, c'est la vie, avec une pensée pour les autres victimes, à qui il souhaite d'avoir suffisamment de bonheur pour apaiser cette douleur qui les ronge de l'intérieur.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe. Dans l'enquête sur François Fillon et les emplois fictifs de son épouse Pénélope, le Conseil supérieur de la magistrature assure qu'aucune pression n'a été exercée sur le parquet financier.
On s'en souvient, c'est Emmanuel Macron qui avait saisi le Conseil après des déclarations de l'ancienne chef du parquet financier. Elle affirmait à l'époque avoir mené l'enquête sous la pression, disait-elle, du parquet général.
Le bilan des classes fermées à cause du coronavirus continue d'augmenter. Désormais, 81 établissements scolaires et plus de 2000 classes sont porte-close en France.
Oui, et les demandes de tests, on le sait, ne cessent de se multiplier. Les délais se font de plus en plus attendre. Et même les patients prioritaires doivent attendre plusieurs jours pour obtenir leurs résultats.
Une situation complètement chaotique. Certains en profitent. Vous nous révéliez dès ce matin sur Europe 1 cette information, Victor Dolande. Des laboratoires proposent des résultats plus rapides, mais payants.
Oui, alors que la règle est très claire depuis la fin juillet, n'importe qui peut se faire tester gratuitement, sans ordonnance. Mais contre quelques billets, certains labos font donc remonter votre dossier sur le dessus de la pile. Une pratique illégale, mais qui ne gêne pas ce laboratoire du centre de Paris où je me suis rendu.
On m'a dit qu'on pouvait payer pour des tests plus rapides, c'est possible ça?
Oui, c'est payant.
D'accord, c'est en combien de temps vous les avez?
24-48 heures maximum.
Le montant c'est combien du coup?
Alors juste pour la BCS, c'est 80 hors taxes, 96 euros TTC.
À Saint-Denis, en région parisienne, c'est pareil, 100 euros dans un autre laboratoire. Dans la file d'attente, beaucoup de voyageurs prêts à payer. Difficile de savoir combien de laboratoires abusent, mais cette pratique écœure Lionel Baran, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux.
C'est révoltant parce qu'on se donne à fond pour les patients au quotidien. Tous les laboratoires de France, ce sont des tests qui sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Donc le patient n'a rien à débourser. On n'a eu aucun écho de ce type de problème. Mais si jamais il y en a un, il faut que ça cesse immédiatement.
De son côté, le ministère de la Santé que nous avons contacté condamne avec fermeté cette pratique. Et selon nos informations, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été avertie de ces agissements et va enquêter dans les plus brefs délais.
Victor Dolande. Et en Espagne, Madrid envisage de reconfiner les zones de la ville et de la région les plus touchées par des cas de Covid. Certains quartiers populaires du sud de Madrid dépassent les 700 cas pour 100 000 habitants.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h11, la suite de votre journal avec Carole Ferry. 17e étape du Tour de France aujourd'hui entre Grenoble et Méribel. Les coureurs ont dû affronter aujourd'hui le redouté col de la Lauze.
Oui, et c'est un Colombien qui s'est imposé au sommet, Axel May. Par ailleurs, le maillot jaune, second de l'étape, confirme lui sa place de leader.
Oui, et bien si vous avez écouté Europe 1 ce matin, vous avez entendu Warren Barguil expliquer qu'au-delà des 2000 mètres, c'est le territoire des Colombiens et qu'il ne comprendrait pas que l'un d'eux ne s'impose pas au sommet du col de la Lauze, 2304 mètres d'altitude. Le grimpeur breton a vu juste puisque c'est Miguel André López qui gagne. Surnommé Superman, le coureur né dans la région andine offre à Astana son deuxième succès sur ce tour après Lutsenko au Montégoal et offre aussi un beau cadeau d'anniversaire à son manager Vinokourov qui fête ses 46 ans aujourd'hui. La cérémonie protocolaire s'est déroulée sous les yeux du président de la République, présent sur cette étape. Le maillot jaune a été remis à Roglic, qui a repris un peu de temps à son jeune compatriote slovène Pogacar. 57 secondes désormais d'avance pour Roglic. Pogacar, qui est le nouveau maillot à poids de ce Tour de France. Et au classement général, à la troisième place, on trouve Miguel André López derrière, donc le duo slovène. Quant à Guillaume Martin, il reste à la 11e place, mais a encore perdu du temps, tout comme le Colombien Nairo Quintana, qui perd à nouveau beaucoup de temps aujourd'hui. Et puis Julien Alaphilippe est élu combattant du jour.
Merci Axel May de nous faire vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
À l'étranger, aux États-Unis, les incendies continuent à ravager la côte ouest. Cela fait maintenant plus d'une semaine avec un lourd bilan, 35 morts au total et plus de 2 millions d'hectares brûlés depuis la mi-août.
On vous en parle très régulièrement sur notre antenne et quand on vous parle d'incendies de grande ampleur, eh bien la preuve est arrivée ces jours-ci jusqu'à nous.
Les fumées ont en effet traversé l'Atlantique et sont arrivées en Europe, Mathieu Bock.
Oui, ce sont les satellites du programme européen Copernicus qui ont remarqué que ces fumées particulièrement épaisses avaient parcouru les quelques 10 000 km qui séparent la côte ouest des États-Unis de l'Europe. Elles ont été poussées par des vents jusqu'à chez nous à une altitude de 5 000 ou 6 000 mètres. Elles ne sont donc pas toxiques pour nous. Elles ont atteint l'Angleterre, la France, l'Espagne, mais aussi le Portugal, l'Allemagne et certains pays d'Europe de l'Est. Et Mauro Facchini, le responsable du programme Copernicus, nous explique que même si elles sont lointaines, on pourra presque les apercevoir, ces fumées, ce soir.
On peut voir des modifications de la lumière au coucher de soleil. Donc la couleur du soleil, puisqu'il traverse ces couches de particules fines, peut être un petit peu modifiée, donc un petit changement de couleur dans le rouge par rapport à la normale. Les experts qui s'occupent de ça peuvent comprendre la différence et peut-être aussi toute personne qui prend son apéritif pourrait aussi voir cette différence, surtout avec des journées de beau temps comme maintenant. Ce qui est inquiétant, c'est l'intensité des feux et le fait que ça continue pas aussi longtemps. Le vrai problème, c'est aux États-Unis, le fait que ces feux sont vraiment très fréquent et d'une puissance très exceptionnelle par rapport au passé.
En effet, ces fumées sont des dizaines, voire des centaines de fois plus intenses que la moyenne de ces dernières années aux États-Unis. Alors depuis le début, il y a un mois, de ces incendies qui sont aggravés par le dérèglement climatique, insistent les experts. On estime que plus de 2 millions d'hectares sont partis en fumée.
Merci pour ces précisions, Mathieu Bock.
La météo avec Anissa. Anissa qui nous dit que la chaleur provoque quelques orages demain.
Ben oui, vous le savez, hein, c'est une mécanique. Il fait trop chaud, il fait trop lourd et les orages éclatent. Alors ça va concerner surtout ce soir et cette nuit avec près des reliefs, des orages qui se développent. Actuellement, là je viens de vérifier, il pleut du côté d'Aubusson dans le parc naturel du Limousin, à Clermont-Ferrand, dans le Morvan, nous avons des orages. Vous voyez que c'est toujours très proche des reliefs, dans les Alpes, à Chamonix, à Bourg-Saint-Maurice, à Briançon, sur le parc du Mercantour également, et puis dans les Cévennes, voilà, nous avons des pluies un petit peu fortes ce soir et cette nuit. Demain, c'est du très beau temps pour tout le monde, sans exception.
Bien.
Alors, côté température, j'ai quand même une bonne nouvelle.
Ah.
Il va faire moins chaud sur la moitié nord, et ça fait du bien, on va respirer avec 20 à 28 degrés, 20 degrés pour Dunkerque, 24 à Lille, 28 à Paris, ça baisse, hein, on perd 3-4 degrés à peu près sur la moitié nord. En revanche, sur la moitié sud, là, les températures sont élevées, avec un pic de chaleur sur le sud-ouest, 31 degrés à Bastia, 32 à Clermont-Ferrand, 33 à Nîmes et Biarritz, 34 à Lyon, et je vous le disais, encore très chaud, 35 à Angoulême et Bordeaux, et 36, la maximale, pour Mont-de-Marsan.
Merci Anissa, à tout à l'heure.